danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien et jamais tôt. On n'est pas là pour gratter, on est venu pour s'enivrer de connaissances comme des pros, mais pas de lézards dans nos bistrots. Allez, danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.
Les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos six boulots, ce qu'on nous cerne, c'est comme il faut.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Henri Mitterrand.
De l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots.
Le verbe peut-il changer l'histoire? Alors évidemment, je parlerai surtout de J'accuse, mais nous essaierons aussi peut-être d'élargir un petit peu le débat ensuite, à la fois dans mes propos et aussi dans la discussion qui va suivre. Donc, vous savez, on pourrait rester toute la nuit à parler de l'affaire Dreyfus. C'est une affaire extraordinairement compliquée, qui a été très longue et pour laquelle il existe une bibliographie de travaux historiques monumentale. J'ai dans mes papiers, non pas la bibliographie, mais la seule chronologie, plus ou moins jour par jour, des événements qui ont marqué l'affaire Dreyfus, il y en a 36 pages, et ce ne sont que des notations chronologiques. Alors, nous n'allons pas passer la nuit là-dessus. Je voudrais simplement, dans les quelques dizaines de minutes que vous voulez bien m'accorder, d'abord résumer l'affaire, enfin, dans la mesure où c'est possible, parce que je pense qu'il est difficile de parler du rôle de Zola et de son immortel J'accuse sans pouvoir le situer dans l'encadrement général de l'affaire. Ensuite, nous réfléchirons un instant sur ce texte qui est en même temps un acte absolument extraordinaire dans ses circonstances, dans sa forme et dans son efficacité. Nous réfléchirons là-dessus pour essayer de comprendre comment il se fait que Zola ait été amené à écrire ce texte et comment il se fait que ce texte, effectivement, à son époque, ait changé l'histoire. Non seulement l'histoire du malheureux capitaine Dreyfus, mais aussi l'histoire politique du pays, puisque vous savez que dans les mois qui ont suivi la décision de confier à la Cour de cassation le dossier Dreyfus, qui était jusque-là resté dans les papiers du tribunal militaire, dans ces mois-là, la majorité, qui était une majorité qu'on disait à l'époque modérée, mais qui était conservatrice et foncièrement anti-Dreyfusarde, la majorité a perdu le pouvoir, et c'est alors que on est entré dans une autre ère historico-politique qui est l'ère de la République radicale, avec toutes les mesures qui ont suivi sur le plan civil, institutionnel et social. Donc ce geste de Zola est effectivement un de ces verbes qui ont changé l'histoire. Vous savez, l'affaire Dreyfus, c'est une espèce de tragédie, au fond, où c'est une série de drames successifs qui composent de manière synthétique un drame unique. Et quand on regarde ce qui s'est passé entre 1894 et 1906, c'est-à-dire pendant les 12 années qu'a duré l'affaire Dreyfus, eh bien, on s'aperçoit que cette période peut, je force peut-être un peu les choses, mais elle se peut diviser en 5 actes, comme un drame classique. Et ce sont ces 5 actes que, très rapidement, je voudrais faire revivre, si peu que ce soit, devant vous. Le premier acte, c'est celui de l'année même 1894. Et vous savez qu'à la fin de cette année, à l'automne de 1894, un capitaine qui s'appelait Alfred Dreyfus, qui était stagiaire à l'état-major de l'armée à Paris, s'est vu soudainement accusé d'avoir été l'auteur d'une pièce secrète, tout au moins très confidentielle, qui portait sur les problèmes de l'artillerie française de l'époque, et qu'on avait découverte à l'ambassade d'Allemagne. Je vous passe les détails, mais cette pièce qu'on appelle le bordereau, parce qu'elle énumérait une série d'informations concernant les dernières découvertes de l'artillerie française, en particulier le fameux canon de 120, cette pièce avait été, paraît-il, ramassé par la femme de ménage de l'ambassade d'Allemagne, qui était elle-même un agent des services secrets français, et transmise au service secret français, qu'on appelait à l'époque le service de statistique. On regarde cette pièce, évidemment, une enquête se déclenche, et on constate que très probablement c'est quelqu'un qui, ou c'est possiblement quelqu'un qui appartient à l'état-major. On cherche dans l'état-major, on cherche du côté des stagiaires, il y en avait un certain nombre, une bonne douzaine, et comme par hasard, on tombe sur le seul capitaine stagiaire de l'état-major qui était juif, Alfred Dreyfus. Il est vrai qu'il y avait des analogies dans l'écriture, mais immédiatement s'est créée une espèce de conjuration autour de lui, parmi les officiers de l'état-major, pour considérer qu'au fond, on avait trouvé le coupable. Il faut se dire aussi, il faut savoir que l'atmosphère française de l'époque n'était pas une atmosphère saine. Depuis plusieurs dizaines d'années, régnait dans la mentalité française un courant antisémite, grossier, vulgaire, souvent ordurier, qui avait été alimenté par un publiciste nommé Édouard Drumont, qui avait fondé un journal tout entier concentré sur la dénonciation des Juifs en France et qui s'appelait La Libre Parole. Et il avait créé ce journal à la suite du succès d'un livre qu'il avait publié en 1886 et qui s'appelait La France juive. Il s'agissait de montrer que la France était tout entière entre les mains des Juifs, les dénoncer et bien entendu appeler sinon à leur extermination, au moins à leur expulsion ou, si vous voulez être un petit peu plus clément, à leur concentration dans des ghettos spécialisés. On n'imagine plus maintenant ce que pouvait être ce type de propos qui circulait dans le pays tout entier, qui affectait les milieux de bourse, qui affectait l'armée, qui affectait l'Église catholique et qui affectait aussi une bonne partie de la population. Alors c'est sur le fond de cette mentalité qui s'était développée comme ça de 1850 plus ou moins jusqu'à 1890 que la suspicion anti-juive, antisémite est venue tout naturellement dans la tête de ces officiers d'état-major. Certains étaient des aristocrates, d'autres non, mais au fond, ils partageaient cette idée que Le juif ne pouvait pas être un patriote, ne pouvait pas être un bon français, et par conséquent, s'il y avait un juif dans l'état-major, c'était probablement lui qui avait commis cette faute, ce crime d'espionnage. On en était là. Bref, on interroge le capitaine Dreyfus, et là, il y a des noms que je passe sous silence parce qu'on n'a pas le temps, mais on l'arrête. On le prie de venir en civil à son bureau, et puis là, on l'arrête, on le questionne, on se livre sur lui pendant des jours et des jours à une espèce de torture morale. Sa famille, sa femme, ses enfants ne savent absolument pas ce qu'il est devenu. Il est maintenu au secret dans les locaux du ministère des armées de l'époque. Et bien entendu, il nie éperdument, il nie jusqu'au bout, et il niera toujours, parce que bien entendu, il est innocent. Mais comment prouver cette innocence, c'est toute la question qu'il peut se poser dès ces jours-là. Donc on l'enferme au secret, on accumule toutes sortes de preuves sur sa vie privée ou de simili-preuves sur sa vie privée. On s'aperçoit qu'il appartient à une famille alsacienne. Les Dreyfus étaient des industriels des étoffes à Mulhouse, et une partie de la famille était restée là-bas pendant évidemment l'époque où l'Allemagne était propriétaire, si j'ose dire, de l'Alsace et de la Lorraine. Mais les deux des frères Dreyfus, Mathieu Dreyfus et le capitaine Alfred Dreyfus, avaient choisi la France. Alfred Dreyfus était entré à l'école polytechnique et il était promis à une superbe carrière. Plus patriote que lui, certainement, il n'y en avait pas. Mais il a été pris dans l'engrenage. Et c'est en décembre 1894 que le capitaine Dreyfus a été traîné devant le tribunal militaire, je passe très vite, et il a été condamné à l'unanimité pour crime d'espionnage, malgré ses dénégations, malgré la plaidoirie de son avocat, et aussi sur la base d'un dossier secret qui n'avait pas été communiqué ni à l'accusé, ni à ses avocats, dans lequel se trouvaient toutes sortes de ragots qui cherchaient à accroître, disons, ce faisceau de non pas de preuves, mais de soupçons. Il a été condamné en décembre 1994 à la dégradation publique, à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée. Il était donc rayé de l'existence civile et même de l'existence privée, puisqu'il était hors de question que sa femme puisse le suivre. Il a été expédié en janvier 1895, après sa dégradation, il a été expédié à l'île du Diable, à Cayenne. Et c'est, en quelque manière, la fin du premier acte. Alors, ce qui se passe, c'est que la France entière, à l'époque, est convaincue que Dreyfus est coupable. La presse tout entière, non seulement la presse antisémite, mais même la presse modérée, considère qu'au fond, on a trouvé le coupable d'un acte d'espionnage, il est condamné et tout est bien. Et même dans les milieux de la gauche de l'époque, en particulier dans les milieux socialistes, même Jaurès, sans parler d'autres dirigeants du Parti socialiste de l'époque, le Parti radical, enfin tout le Parlement de l'époque était convaincu que Dreyfus avait été justement condamné. Il n'y avait plus à y revenir, il n'y avait plus à en parler davantage. Clémenceau qui, quelques années plus tard, va être un des défenseurs les plus éloquents et les plus efficaces de Dreyfus, Clémenceau, le lendemain de sa condamnation, a dit « Mais cet homme, il aurait fallu le fusiller. On l'envoie en déportation, c'est infiniment trop clément, il a commis un crime qui méritait la mort. » Donc, c'est vous dire à quel point l'état d'esprit était travaillé par ce courant de nationalisme, d'antisémitisme, d'inhumanité qui risquait d'entraîner le malheureux à la mort. Simplement, ce qui s'est passé, et on arrive au second acte, c'est que d'abord Dreyfus avait une famille qui, évidemment, était à peu près convaincue de l'innocence du capitaine. Il avait un frère, Mathieu Dreyfus, et Mathieu Dreyfus, à partir du jour de la condamnation de son frère, avouait toute sa vie, ce qui lui restait de vie, il le vouait à faire éclater l'innocence d'Alfred Dreyfus. Donc il a multiplié les contacts, il a cherché des appuis à droite et à gauche. Il ne connaissait pas les raisons de la condamnation. Le dossier était secret, on ne savait pas pourquoi Alfred Dreyfus, dans quelles conditions Alfred Dreyfus avait été expédié dans ce bagne de l'île du Diable sur les côtes de la Guyane. Mais enfin, avec beaucoup de persévérance, il a essayé d'intéresser des esprits ouverts, des esprits de progrès, des esprits de justice, des esprits de droit au cas de son frère. C'était très compliqué, très difficile, parce que tout le monde faisait silence. Il faut bien dire que sur le plan électoral, l'affaire Dreyfus était une affaire pourrie. Hein ? Les députés, y compris les députés de gauche, ne voulaient pas entendre parler de ça, parce qu'ils savaient que l'opinion publique, dans les cantons, dans les départements, dans les provinces, n'était pas du tout favorable aux juifs. On vivait dans cette idée que le juif était cupide, que c'était un homme d'argent, que c'était un usurier, que c'était un homme de ségrégation et de ghetto, que c'était des gens arrogants, et qui, au fond, se moquaient de la patrie comme de leur premier soulier. Il y avait c'est le discours qui circulait à l'époque dans la France entière, et avec, la meilleure bonne foi. Je ne dirais pas que c'est terminé maintenant, d'ailleurs. Hein. Vous savez, parfois, il ne faut pas trop gratter. Mais à l'époque, ça prenait un tour vraiment intense et violent, virulent. Donc, on ne touche pas les hommes, les parlementaires, par exemple, auxquels s'adressait Mathieu Dreyfus, faisaient la sourde oreille, disaient, la chose est jugée, puis vous savez, faut pas revenir là-dessus, on peut pas traîner l'armée dans la boue, l'armée ne peut pas se tromper, nous vivons dans une ambiance qui est celle de l'espoir de la revanche, les Allemands multiplient, bien entendu, les actes d'espionnage, nous sommes assiégés, etc. L'armée est sacrée, on ne touche pas à l'armée, elle a jugé, elle a raison. Les mois ont passé. Il y a tout de même un journaliste dont il faut connaître le nom, qui, au bout de quelques mois, a tenté de réunir des arguments. Il s'appelait Bernard Lazare, et il a publié en 1896 une brochure intitulée « Une erreur judiciaire, le cas d'Alfred Dreyfus ». Donc, petit à petit, certains se posaient des questions. Ils se posaient d'autant plus de questions que la campagne de Drumont continuait. La libre parole, tous les jours, multipliait les insultes, les calomnies, les portraits de personnalités juives traînés dans la boue. Alors, évidemment, il y avait le mythe des Rothschild, vous voyez bien, tout ce qui pouvait circuler à l'époque. Donc, c'était tout de même une espèce de maladie mentale qui s'était emparée du corps social français. En 1896, donc 18 mois après l'expédition de Dreyfus à l'île du Diable, Zola s'est énervé. Il s'est exaspéré devant ce genre de discours. Et il y a un texte qui est peu connu, qui précède de loin, j'accuse d'ailleurs, qui paraît dans le Figaro le 18 mai 1896 et qui s'intitule, et c'était une vraie provocation dans le climat de l'époque, qui s'intitule « Pour les Juifs ». Pour les Juifs. Et il prend la défense des Juifs et surtout, il tape à boulet rouge contre ces propos, ce discours d'insultes, de haine, de proscription, etc., qui lui paraît à la fois insupportable et stupide, d'une médiocrité intellectuelle totale. C'est un article qui a déjà fait quelques bruits. Mais Zola lui-même, à l'époque, ne croyait pas à l'innocence de Dreyfus. Ce contre quoi il se bat dans Pour les Juifs, c'est contre le discours antisémite qui circule à travers Paris. Il ne parle pas de Dreyfus. Parce qu'encore une fois, lui aussi, il est pris dans ce climat qui consiste à dire un officier traître a été puni, c'est très bien, on n'en parle plus. L'année 95 passe, l'année 96 commence. Le chef des services secrets français de l'époque, malade, quitte ses fonctions. Et il est remplacé par un lieutenant-colonel qui s'appelle le lieutenant-colonel Picard et qui, lui, se dit, au fond, cette histoire n'est pas tout à fait claire. Il faut gonfler le dossier. Il faut essayer d'apporter de véritables preuves. Et on lui apporte les fragments d'un message adressé par l'attaché militaire allemand, le colonel von Schwarzkoppen, qui est attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne, mais qui en réalité est le responsable sur place des services d'espionnage allemands, comme le colonel Panizzardi est également responsable, est également attaché militaire italien et responsable des services d'espionnage italien. Les deux hommes sont tout à fait complices d'ailleurs. Et on apporte au colonel Picard les fragments d'un message adressé par le colonel Schwarzkoppen à un certain commandant Esterhazy, dont personne ne connaît quoi que ce soit, sinon que c'est un officier d'infanterie qui est tout de même assez... qui jouit d'une assez mauvaise réputation parce qu'il est, il est joueur, il est dépensier, il est toujours en dette, il traîne dans les établissements louches, il a des maîtresses qui sont des prostituées, etc. Le commandant Esterhazy n'a pas une réputation extraordinaire et au fond, il passe pour un homme qui a toujours besoin d'argent. Toujours est-il que le colonel Picard se pose la question. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est un petit mot, ça n'a rien à voir avec le dossier Dreyfus, mais c'est un message, ce qu'on appelait à l'époque un petit bleu. Il tombe sur ce petit bleu, il se dit, c'est quand même étrange que l'ambassade d'Allemagne s'intéresse au commandant Esterhazy. Et alors, comme il est lancé dans un examen qui, dans son esprit, serait destiné à prouver la culpabilité de Dreyfus, il construit une enquête. Il fait suivre le commandant Esterhazy. Il réussit à se procurer des lettres du commandant Esterhazy. Et, stupéfaction, il s'aperçoit que l'écriture du commandant Esterhazy est la même que celle du bordereau. On est en mars 1896. Personne ne sait ça parce que tout est secret. Le chef des services secrets garde pour lui cette découverte. Alors il continue un petit peu l'enquête et il se dit, au fond, il y a deux espions. Il y a le capitaine Dreyfus qui a été condamné, et puis voilà qu'il y en a un deuxième, payé lui aussi par l'ambassade d'Allemagne. Tout de même, cette analogie d'écriture, qui est plus qu'une analogie, parce que c'est vraiment une identité absolue, tout au moins à ses yeux, lui pose problème et il entend pousser plus loin l'analyse. Évidemment, il avertit ses chefs, le sous-chef d'état-major d'époque, qui est le général Gons. Il lui dit « voilà ce que j'ai trouvé ». Et le général Gons lui dit, écoutez, en substance, pas de vague. Ne remuez rien, suivez cette affaire, mais surtout, restez discret. Dreyfus a été condamné, c'est un dossier sur lequel on ne peut pas revenir. Il est possible, effectivement, qu'Esterhazy ait commis lui aussi des fautes, mais séparons les deux dossiers. Il y a le dossier Dreyfus d'un côté, il y a le dossier Esterhazy de l'autre. Et quelques mois plus tard, le lieutenant-colonel Picard est déchargé de ses fonctions à la tête des services secrets français. Il est expédié d'abord en Lorraine, et puis ensuite dans le midi de la France, et finalement en Tunisie, et au fin fond de la Tunisie, dans une zone qui est à moitié aux mains des insurgés. Il y a des tribus en révolte, etc. C'est donc une zone dangereuse. Et on peut penser immédiatement à l'époque, Picard a pensé qu'on cherchait à se débarrasser de lui. On arrivait donc à la fin de 1896 et personne ne savait quelle avait été la découverte du colonel Picard. Tout de même, par précaution, le colonel Picard prend un avocat qui s'appelle Maître Leblois et à lui, sous le sceau absolu du secret, il lui révèle ce qu'il a découvert, ce qui s'est passé et quelles sont les menaces qui pèsent sur lui. Bon, les choses suivent leur train de cette manière et on arrive par conséquent à l'année 1897 et ça va être la fin du deuxième acte. Vous savez, c'est une affaire qui se termine toujours par une péripétie dramatique. La première péripétie dramatique du premier acte, c'est la condamnation de Dreyfus. La deuxième péripétie dramatique, mais elle reste inconnue pour le moment, c'est la découverte du petit bleu envoyé à Esterhazy, qui visiblement atteste que c'est Esterhazy le coupable et pas Dreyfus. Mais l'état-major fait le gros dos et impose le silence à qui que ce soit. C'est pour ça que les mois passent, et on arrive à quelque chose qui va être le troisième acte, c'est-à-dire le début d'une campagne, le début d'une vraie campagne, parce que des bruits ont filtré. Un certain nombre d'intellectuels français se posent des questions, un certain nombre de journalistes, peu nombreux d'ailleurs, parce que toute la presse, enfin une grande partie de la presse que Zola appelle la presse immonde, est entre les mains de ce courant antisémite dont je parlais tout à l'heure. Mais enfin, il y a des voix qui s'élèvent, il y a des questions qui se posent. Et il y a un homme qui, très rapidement, se dit que l'affaire Dreyfus n'est pas claire. Cet homme est le vice-président du Sénat, il s'appelle Scheurer Kestner. C'est un vieux parlementaire radical, très rigoureux, protestant, alsacien, enfin un homme qui ne transige pas avec la vérité et qui commence à poser des questions. Il va voir le ministre de la guerre de l'époque, qui est un de ses vieux camarades, général Billot. Il obtient une audience du président du Conseil des ministres, qui est Méline, et puis il va même jusqu'à rendre visite au président de la République pour exprimer très naïvement, d'une certaine manière, mais très honnêtement, ses doutes et ses soupçons. Tout le monde l'accueille très poliment, mais on lui ferme la porte au nez, on lui dit surtout ne remuez pas ces histoires-là, la raison d'État, l'honneur de l'armée, silence.
Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Ma jolie danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Henri Mitterrand.
C'est dans ces conditions que, à la suite d'une interpellation à l'Assemblée, mais d'une interpellation venant des milieux anti-Dreyfusards, un député qui interpelle le gouvernement en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que cette campagne qui commence à se dessiner dans l'opinion? Qu'est-ce que vous faites pour la réprimer, pour l'empêcher, pour arrêter ces trublions, ces agitateurs ?» Et le président du Conseil, à l'époque, Jules Méline, a cette phrase extraordinaire par laquelle il pense apaiser toutes les passions « Il n'y a pas et il n'y aura plus d'affaires Dreyfus ». À la face de l'Assemblée, et évidemment, ordre du jour, majorité absolue, tous les parlementaires sont soulagés, satisfaits, il n'y a pas d'affaire Dreyfus. C'est une affaire jugée, et on ne revient pas sur une affaire jugée. Oui, mais Scheurer Kestner est un homme têtu, et il a un entretien avec l'avocat de Picard, le Blois, qui, au fond, pour protéger les intérêts de son client, lui révèle que voilà qu'il y a eu cette découverte. Il la lui révèle sous le sceau absolu du secret. Jusqu'au jour où un banquier, voyant passer une photocopie du bordereau, car enfin on a publié une photographie du bordereau, cette photographie a apparu dans le Figaro en novembre 1896. Voyant passer cette photocopie, ce banquier reconnaît l'écriture d'un de ses clients de bourse, sur un ordre de bourse, c'est l'écriture d'Esterhazy. Il en fait part à Mathieu Dreyfus, et Mathieu Dreyfus immédiatement dépose une plainte contre Esterhazy. Il dénonce Esterhazy au gouvernement français comme étant le véritable coupable du crime pour lequel son frère avait été condamné. Vous voyez par conséquent que c'est une marmite qui commence à bouillir, c'est une marmite de sorcière qui commence à bouillir un petit peu dans tous les sens. Et quoi que fasse le gouvernement, quoi que fasse l'État, quoi que fasse l'État-major, un mouvement est en train de se dessiner. Et c'est dans ces conditions que Zola va entrer sur la scène. En effet, lorsque Mathieu Dreyfus, à la suite des révélations du banquier Castro, va trouver Scheurer Kestner, qui avait déjà pris publiquement fait et cause, en somme, pour qu'on révise le procès d'Alfred Dreyfus, il va le trouver et lui dit « Bon, vous êtes tenu par le sceau du secret, mais répondez-moi seulement par oui ou par non. Voici l'écriture du commandant Esterhazy. Est-ce que, selon vous, c'est lui le véritable coupable? Est-ce que c'est de lui que le colonel Picard vous a fait connaître son sentiment? Scheurer-Kestner, à ce moment-là, s'estimant délivré du serment de secret, puisqu'on lui apporte la preuve et qu'elle n'est pas venue du canal de l'avocat Leblois, Scheurer-Kestner lui répond « oui ». Et c'est dans ces conditions que Mathieu Dreyfus dénonce publiquement Esterhazy au pouvoir public. On est là, donc, à la fin de 1897, et c'est le moment, en novembre 1897, où, fort de cette dénonciation publique, les partisans de la campagne de révision, les défenseurs de Dreyfus, se disent « il nous faut une grande voix ». Il faut quelqu'un qui prenne la tête de cette campagne et qui réussisse à en imposer à l'opinion. Et il se tourne vers Zola. Zola rencontre Scheurer-Kestner, il déjeune avec lui, avec Leblois, on lui montre toutes les pièces du dossier en main, et il décide de s'engager, non sans hésitation. Il s'engage, au fond, d'abord, parce que le sénateur Scheurer-Kestner est en proie à une campagne d'insultes, d'injures, d'outrages, dans une grande partie de la presse parisienne de l'époque. Les étudiants le conspuent dans la rue, il est menacé dans sa vie. Et le premier article que Zola écrit, qui est vraiment son entrée dans la campagne de révision, en novembre 1997, dans Le Figaro, s'intitule « Monsieur Scheurer-Kestner ». Et c'est un portrait, espèce d'éloge extraordinaire du courage et de l'intelligence du sénateur Scheurer-Kestner. Il écrit comme ça une série d'articles, et pendant ce temps-là, l'affaire Esterhazy continue. L'état-major et le gouvernement sont très ennuyés parce qu'il y a cette plainte. On fait donc une enquête. L'état-major refait sur Esterhazy la même enquête que celle qui a été faite sur Dreyfus. Mais c'est une enquête visiblement manipulée, c'est-à-dire qu'on prépare tout pour que Esterhazy, qui va passer devant le Conseil de guerre, soit acquitté. On a essayé de déboucher sur un non-lieu. C'était encore beaucoup plus simple. Il suffisait de dire non, mais non, c'est une erreur, impossible de prouver la culpabilité du commandant Esterhazy, non lieu, Esterhazy ne veut pas de ça. Et Esterhazy manœuvre dans la coulisse avec un certain nombre d'officiers de l'état-major pour être traîné devant le Conseil de guerre, compte tenu du fait qu'il sait que s'il est traîné devant le Conseil de guerre, il sera acquitté. Ce sera donc une autre chose jugée et on ne pourra plus à l'avenir prouver sa culpabilité. De fait, le 11 janvier 1898, le Conseil de guerre acquitte Esterhazy. C'est la péripétie, la troisième péripétie dramatique qui, une fois de plus, semble refermer le couvercle du bagne sur les épaules du malheureux capitaine Dreyfus. Alors, vous me direz, il y a encore deux actes. Oui, il y a encore deux actes. Et le quatrième acte, c'est l'acte le plus spectaculaire. C'est celui dont Zola est l'acteur, le metteur en scène et l'acteur. Exaspéré, mais rendu absolument furieux par l'acquittement de quelqu'un dont tout le monde sait qu'il est coupable, en l'espace de deux nuits, Zola change complètement sa stratégie. Il se dit, il faut porter la guerre verbale dans le camp de l'adversaire. Et il écrit ce J'accuse, qui paraît dans un journal à l'époque qui tirait à 30 000 exemplaires, qui était le journal de Clémenceau, journal du Parti radical. Du jour au lendemain, le lendemain matin, le journal tire pendant la journée entière. Il est diffusé à 300 000 exemplaires dans les rues de Paris et dans les grandes villes. C'est une explosion, c'est une véritable bombe verbale. Pourquoi ? Eh bien parce que Zola ne s'en tient plus, dans sa lettre au président de la République, à défendre les idées de justice, de droit, de liberté, de progrès, etc. Il attaque, il substitue à la défense, je veux dire, à la plaidoirie, un réquisitoire. Et il attaque nommément, les désignant par leur nom, ce qui est une audace, d'une violence factieuse. Il se comporte en factieux. Il attaque le ministre de la guerre, par son nom, le chef d'état-major, le sous-chef d'état-major, tous les officiers qui ont contribué à la condamnation de Dreyfus. Et il les accuse de forfaiture, il les accuse de trahison de leur fonction. Il y a cette péroraison absolument extraordinaire hein, qui faut... Dans la première partie de l'article, il reprend tous les éléments du dossier qui lui a été transmis par Charles Kessner et par Le Blois. Hein. Il démontre l'inanité des accusations, il démontre les illégalités de l'enquête. C'est un récit en très bonne forme. Toujours est-il que, évidemment, il a commis le délit, même le crime de diffamation, et de diffamation à l'égard de fonctionnaires publics. Donc, inévitablement, il est éventuellement, s'il y a une plainte, condamné à la cour d'assises. Et c'est là que le gouvernement a fait une erreur stratégique qui lui a été fatale. Parce que il y avait deux solutions pour l'État. Ou poursuivre, ou ne pas poursuivre. Et on voit bien comment la séance de l'Assemblée, le jour même de la publication de J'accuse dans l'aurore, le 13 janvier 1998, on voit bien comment s'est déroulée cette séance de l'Assemblée. Une meute de députés s'est précipitée dans les couloirs du Palais Bourbon, non seulement, mais dans l'enceinte même du Palais Bourbon, jusqu'au ministre de la guerre et au président du conseil, en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous laissez insulter l'armée? Cet homme a traîné dans la boue nos généraux, les grands chefs, ceux sur lesquels nous comptons pour la fameuse revanche, n'est-ce pas? Il faut faire quelque chose. » Et c'est contraint et forcé que le président du conseil de l'époque et le ministre de la guerre, qui savait très bien que ça risquait de mal finir, ont déposé la plainte. Le gouvernement a commis une erreur, n'est-ce pas ? Il a décidé de poursuivre. Et il faut bien dire que c'est le procès Zola, qui s'est déroulé en février 1998, qui a servi de détonateur, si j'ose dire, toute la tactique des pouvoirs publics, le silence, qu'on n'en parle plus, qu'on oublie cette affaire. Eh bien, il n'était plus possible de l'oublier. La France entière s'enflammait pour ou contre Zola, pour ou contre Dreyfus. Et puis surtout, plus grave, les débats ont duré longtemps, ils ont duré 3 semaines. Les avocats de Zola, en particulier l'avocat Laborie, étaient d'une rouerie et d'une habileté sans nom. Malgré la censure exercée par le président du tribunal de l'époque, chaque fois qu'une question surgissait sur le fond de l'affaire, il disait « la question ne sera pas posée ». Nous n'avons à discuter que sur le délit de diffamation. Est-ce que M. Zola a diffamé ou non les officiers ? Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Mais malgré ce barrage, il a bien fallu évoquer quand même les enquêtes antérieures. Et on a convoqué, la défense a convoqué des généraux comme témoins. Et il y a 2 généraux qui ont commis une erreur qui s'est ajoutée à celle du pouvoir, si j'ose dire. Le premier, le général de Pellieu, perdant un peu la tête devant les assauts de l'avocat de Zola, a dit « Eh bien, je vais vous dire ce qu'il en est, moi. Hein ? Dreyfus a été jugé et bien jugé, et du reste, on a découvert une pièce qui atteste, qui porte son nom, et qui atteste que c'est lui le coupable. » Stupéfaction dans l'auditoire, et évidemment, c'était du pain blanc pour Maître Laborie, pour l'avocat, qui dit « Mais alors, cette pièce, elle n'a été portée, il faut la discuter, etc. » Bon, c'était une erreur extraordinaire de la part de Depellieu d'avoir abordé le fond de l'affaire malgré, au fond, la consigne de silence qui était faite. Et le lendemain, le général de Boisdeffre, chef d'état-major encore plus exaspéré que son subordonné, est arrivé au tribunal et en disant en substance, écoutez, si vous ne faites pas confiance au chef de l'armée, ils sont prêts à remettre leur épée entre les mains de la nation. C'était un chantage à la démission, un chantage presque au coup d'État. 2 erreurs qui ont pleinement satisfait la défense de Zola. Il a été quand même condamné. Il a été condamné à 1 an de prison et à 3 000 francs d'amende. Il y a eu plusieurs procès successifs parce qu'il y avait eu des erreurs de procédure. Et en juillet 1898, le dernier procès qui s'est déroulé à la cour de Versailles a confirmer la condamnation. Le jour même, Zola prenait sa valise sur le conseil de ses avocats, il prenait le train à la gare du Nord et il s'en allait à Londres où il est resté 9 mois en exil. Pourquoi était-il parti ? Parce que ses avocats lui avaient dit « Surtout, ne vous laissez pas remettre entre vos mains la décision du tribunal. Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu la décision du tribunal, nous pouvons continuer à nous battre, nous pouvons continuer toutes sortes de recours juridiques. Donc, partez. » Bref, je passe. Zola a été condamné. Mais Là aussi, les choses s'enchaînent de manière toujours très accidentelle, parfois anecdotique. Mais il y a une espèce de logique dans des affaires comme ça, puisque l'affaire au départ était viciée, eh bien, il y a une espèce de logique du mensonge qui continue à travailler mois après mois. Et le nouveau ministre de la guerre, Cavaignac, laissant passer les mois, et sachant que le général de Pellieu avait commis cette erreur d'évoquer une pièce secrète, le ministre Cavaignac a confié à un des officiers de l'état-major le soin quand même de revoir tout ce dossier. Hein. Alors, le lieutenant Cuignet a regardé les dossiers. Il est tombé sur une pièce qu'en toute honnêteté, il a trouvée suspecte. Et cette pièce, c'était un prétendu télégramme de l'attaché militaire italien Panizzardi à l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen, dans lequel il était question de cette canaille de D, ce juif, etc. Il disait, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec ce juif, c'est une question trop dangereuse pour nous, en substance, etc. Bon. Et en regardant la pièce, cette prétendue lettre de Panizzardi à Schwarzkoppen, il s'est aperçu qu'elle avait été faite de deux morceaux de documents. D'abord, qui n'étaient pas de la même couleur, pas tout à fait de la même couleur, et qui portaient sur des problèmes qui n'avaient rien à voir avec l'affaire Dreyfus. Il a découvert à ce moment-là qu'il y avait dans le dossier Dreyfus des faux, des pièces qui avaient été délibérément forgées, et on connaissait celui qui les avait forgées, c'était le lieutenant-colonel Henry, qui avait pris la suite du colonel Picard à la tête des services secrets. Vous voyez, ces histoires de services sont toujours très, souvent très, très obscures et très glauques. Bref, le lieutenant Cuignet va remettre cette découverte à son chef, qui est le général Roget, qui la transmet à Cavaignac. On convoque le lieutenant-colonel Henry, en présence de Cuignet et du général Roget, lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Henry va nier pendant une journée entière, et puis il va finir par avouer, il va dire « Oui, c'est moi qui ai commis ce faux, et je l'ai commis par patriotisme, parce qu'il fallait absolument prouver la culpabilité du capitaine Dreyfus. » Alors on met le colonel Henry aux arrêts, on le conduit au Mont-Valérien, le 31 août, dans une chambre du Mont-Valérien, et le lendemain matin, quand le soldat de garde vient, ouvre la porte de la cellule, il trouve le colonel Henry avec un rasoir à la main et la gorge coupée. Il s'était égorgé, il s'était coupé. On le pense. On pense que c'était un suicide, on n'en est jamais sûr, absolument. Enfin, on pense qu'effectivement c'était un suicide. Il n'a pas pu supporter l'idée que son geste ait été découvert. Alors vous imaginez la manière dont la presse parisienne s'enflamme à partir de là, hein. Tout le dossier Dreyfus repose sur un faux commis par un officier de l'état-major. Et ça, c'est la fin du quatrième acte. Vous voyez, c'est péripétie. Mais on sent que le vent commence à tourner. Et le cinquième acte, eh bien, ce sera celui du nouveau procès Dreyfus. Effectivement, le gouvernement, et même déjà une partie de l'Assemblée, se dit c'est une affaire pourrie, il faut en sortir d'une manière ou de l'autre. Et le président du Conseil de l'époque, qui n'est pas anti-Dreyfusard, qui s'appelle Henri Brisson, qui n'est pas un foudre de guerre dans le camp de Dreyfusard, mais enfin, qui sait, qui sent maintenant qu'il y a eu une erreur magistrale commise, Henri Brisson réussit à persuader ses collègues du gouvernement, à la majorité, pas à l'unanimité, de saisir la Cour de cassation pour qu'une nouvelle enquête soit faite sur le dossier Dreyfus. La Cour de cassation, c'est, comme vous le savez, un tribunal civil avec des magistrats absolument indépendants, qui sont au fait de leur carrière. Elle va se réunir pendant plusieurs mois, non sans résistance d'ailleurs des milieux anti-Dreyfusard. C'est ainsi, par exemple, que on a confié le dossier d'une nouvelle enquête, pour qu'on y voit clair un peu, on a confié le dossier d'une nouvelle enquête sur le capitaine Dreyfus à la chambre criminelle. Il y a trois chambres à la Cour de cassation, dont la chambre criminelle. Et cette chambre criminelle est suspecte aux yeux des anti-Dreyfusards, du Parlement, de la presse, même du ministère. Et on considère que si cette enquête reste entre les mains de la chambre criminelle, la Chambre va conclure à la révision, à l'annulation du procès de 1994, et nous serons dans de très mauvais draps. Et c'est un ministre, le ministre de la Justice de l'époque, qui, à la suite de toute une série d'incidents, fait voter par la Chambre des députés le dessaisissement de la Chambre criminelle. Et on a fait des calculs qui semblent montrer que si l'affaire Dreyfus est remise à l'ensemble des chambres de la Cour de cassation, il y aura une majorité pour refuser la révision. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et quelques mois plus tard, le 3 juin 1899, cinquième acte, hein, si j'ose dire, enfin, début du cinquième acte d'ailleurs, la Cour de cassation déclare nul et non avenu le procès de 1894, exige que l'on rapatrie le capitaine Dreyfus en France, mais il sera jugé de nouveau par un conseil de guerre. Et ce sera le conseil de guerre qui se réunira à Rennes au mois d'août 1800, ou septembre 1899. Évidemment, les Dreyfusards sont inquiets. La famille Dreyfus, Dreyfus lui-même est inquiet. Il est rentré en France, il ne savait rien. Il ne savait rien de tout ce qui s'était passé. On lui avait caché tout. La campagne de révision, le procès de Zola, etc. Il arrive à Rennes. On l'emprisonne quand même à Rennes en attendant le jugement. Et c'est avec stupéfaction qu'il s'aperçoit qu'il a été un cas, qu'il a été une figure d'un combat politique extraordinaire qui a enflammé la France pendant les quatre dernières années. Il prend connaissance du dossier et il est bien décidé à se battre. Eh bien, vous connaissez la suite. Le conseil de guerre de Rennes, ne voulant pas déjuger l'armée, les collègues, les généraux, qui ont fait pression d'ailleurs, parce que tous les généraux sont arrivés en bloc devant le procès, devant le conseil de guerre de Rennes, et ils ont répété leurs arguments, enfin ils ont fait pression, ils ont intimidé les officiers qui faisaient partie de ce nouveau conseil de guerre, et Dreyfus est de nouveau condamné. Condamné, cette fois-ci, à 10 ans de réclusion, non pas de déportation au diable, n'est-ce pas, et dégradation. Vous imaginez la consternation des partisans de Dreyfus. Vous imaginez aussi que c'est la vie même du capitaine Dreyfus qui est en jeu, parce qu'il est absolument épuisé par les années, par les années qu'il a vécues là-bas. Et ses amis, sa famille se disent, si on le remet en prison, il est mort, il va mourir. Alors on le persuade. Parce que le gouvernement lui-même est ennuyé. Entre-temps, comme je le disais tout à l'heure, la majorité a changé. Le nouveau président du Conseil est Waldeck Rousseau, qui lui est Dreyfusard. Il a un gouvernement constitué plutôt de partisans de la révision. Et il est très ennuyé. Très ennuyé parce que le revoilà avec une décision du Conseil de guerre, avec une pression de l'armée. Et il est intimidé. Il ne peut pas tirer une croix sur ce nouveau jugement. Alors, la solution politique qu'on trouve, c'est un, de gracier Dreyfus, et deux, de décréter, un peu plus tard, une amnistie générale, hein, amnistiant les coupables et les innocents. Mais la première chose à faire, c'est de sauver la vie de Dreyfus, et malgré l'opposition de Clémenceau, par exemple, d'un certain nombre de défenseurs de Dreyfus, Dreyfus se rend aux arguments de son frère, de sa famille, et il accepte la grâce. Donc, le lendemain même, ou quelques jours après la condamnation, Dreyfus est gracié, il est libéré, il peut rentrer dans sa famille, il peut se reposer, mais il accepte la grâce avec une phrase dans laquelle il dit « Je continuerai à me battre jusqu'à ce que j'ai retrouvé mon honneur ». Simplement, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, hein, on a vu ça après la guerre d'Algérie, etc. Il faut apaiser les tensions. Et la politique de Waldeck Rousseau et de son gouvernement a été, dans les mois qui ont suivi, de faire voter une amnistie. Et si une amnistie est votée, on ne peut plus revenir sur les illégalités qui ont été commises. Zola s'est battu contre l'amnistie. Il a écrit des articles incendiaires d'une virulence extraordinaire contre l'amnistie avec cet argument. Hein. Rien de plus injuste qu'une amnistie qui met dans le même plat les coupables et les innocents. Finalement, la loi a été votée. Zola est mort en 1902. Il n'a pas su la fin de l'histoire. Il n'a pas su la fin, l'issue même de ce cinquième acte. Et vous savez peut-être que il faudra encore 4 ans avant que le capitaine Dreyfus soit pleinement lavé des accusations qui avaient été portées contre lui. Il y a eu 2 débats successifs à l'Assemblée, et c'est Jean Jaurès qui, en 1903, a relancé, si j'ose dire, une dernière enquête, a fait en sorte que l'affaire Dreyfus ne passe pas complètement aux oubliettes, et il a obtenu de l'Assemblée et du pouvoir qu'on confie de nouveau à la Cour de cassation une nouvelle enquête sur les procès successifs de Dreyfus, celui de 1894 et celui de 1899. Là, il y a une enquête extraordinairement approfondie qui a duré 2 ans, entre 1904 et 1906. Et si je ne me trompe, c'est le 12 juillet 1906 que la Cour de cassation, réunie en séance absolument plénière, a déclaré Dreyfus innocent, absolument innocent, de tous les crimes qu'on lui avait imputés. On lui a rendu non seulement son honneur, mais sa place dans l'armée. Avec parcimonie d'ailleurs, parce que s'il avait continué sa carrière, il aurait été au moins colonel. On l'a nommé chef de bataillon et on lui a donné la Légion d'honneur. Et là, il y a eu une journée plutôt extraordinairement mémorable, elle aussi, qui a été l'envers de celle de la dégradation de janvier 95. C'est-à-dire que sur le front des troupes, dans la cour de l'école militaire, un général a décoré Dreyfus publiquement et l'a félicité et l'a érigé à son grade nouveau de commandant. Donc justice lui était rendue. Mais si cette justice lui avait été rendue, encore une fois, c'est très probablement parce qu'il y avait eu ce texte qui avait mis le feu aux poudres et qui avait relancé la bataille d'opinion, la suspicion sur les conditions dans lesquelles Dreyfus avait été condamné, et qui avait conduit en particulier les juristes civils, les hommes de la Cour de cassation, et déjà une partie des milieux parlementaires, à faire en sorte que l'affaire soit réveillée et qu'elle soit confiée aux tribunaux civils. Alors, juste un mot. Pourquoi est-ce qu'on avait fait appel à Zola ? C'est tout de même une question qu'il faut se poser. Hein. On savait qu'il avait la plume la plus virulente de toutes les plumes françaises de l'époque. C'était Cicéron, c'était quelqu'un qui avait le sens de la rhétorique et le sens de l'éloquence. Et on s'est dit, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Puis on connaissait son sens de la justice et du droit et de la liberté, y compris de la liberté intellectuelle. Donc on s'est tourné vers lui, et il a accepté, parce qu'il a considéré que c'était une forme de devoir, en somme, y compris de devoir professionnel. On avait bien misé, parce que finalement, c'est lui qui a inventé cette espèce de stratégie de ce que j'appelle volontiers, moi, la guerre verbale. Hein, c'est-à-dire transformer le verbe en arme, pas seulement en plainte, hein, pas seulement en invocation ou en récrimination, etc., mais en attaque directe contre des responsables qu'on estime avoir fait acte de forfaiture. Et ça a été ce « J'accuse ». L'onde de choc de cet article a été quelque chose de révolutionnaire. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'histoire d'actes d'écrivains ou de textes d'écrivains qui aient si vite enflammé l'opinion et retourner une affaire. Il n'y en a pas. Parce que ce qui caractérise J'accuse, c'est pas seulement sa logique, son argumentation, sa stratégie d'offensive et de réquisitoire, mais c'est le fait que l'effet a été immédiat. Alors, c'est là qu'on pourrait discuter un petit peu les questions du verbe, n'est-ce pas ? Il y a toutes sortes de verbes. Hein ? Et je conclurai là-dessus. Il y a des verbes qui sont historiquement efficaces, mais qui le sont dans la suite des temps, qui préparent un changement de point de vue, un changement de mentalité, un changement d'opinion. Dès le lendemain de sa publication, il avait changé l'histoire. Parce que les esprits s'étaient enflammés immédiatement par le canal parlementaire, par les discussions de gouvernement, par les interventions de la presse, par cette espèce de bouillonnement qui s'est emparé des opinions françaises de l'époque. Et comme je le disais en commençant, non seulement il a changé l'histoire de ce malheureux capitaine Dreyfus, mais il a changé l'histoire du pays dans la mesure où, de proche en proche, il a donné naissance à un changement de majorité. Et au fond, les fameuses lois des années 1900, les lois de séparation entre l'Église et l'État, les lois de laïcité, etc., elles ont été possibles parce qu'une nouvelle majorité avait remplacé l'ancienne. Donc on voit qu'il y a des chocs successifs qui sont consécutifs à cet acte et à ce texte-acte de J'accuse. Voilà, merci de votre attention.
rigolo, on apprend tout dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble, c'est bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.